Bonjour à tout le monde. Le sermon que je vais vous donner aujourd'hui a rapport avec ce qui s'en vient dans quelques jours comme une belle bénédiction pour ceux que Dieu appelle et à qui il révèle son plan. Le titre du sermon, les fêtes divines du printemps. Bien sûr, il y a des gens ici qui sont des membres de l'Église depuis longtemps. C'est des choses qu'on va revoir, c'est important parce qu'il faut les approfondir. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'Église depuis plusieurs années qu'on ne doit pas continuer à approfondir les choses, à les apprécier davantage. Puis quand arrive la saison des fêtes, se mettre vraiment dans le contexte des fêtes pour en tirer le maximum du profit que Dieu veut que nous en tirions, pour pas que ça devienne une routine. Justement, pour ceux qui célèbrent les fêtes depuis plusieurs années, ça peut devenir une routine, mais ça ne doit pas être ça, même si c'est les mêmes gestes répétés. Et il nous faut apprécier de plus en plus, à mesure que le temps passe, ces fêtes-là, qui ont toujours la même signification importante et essentielle. Et pour les nouvelles personnes, ben c'est fantastique, parce que c'est une découverte. Et je me rappelle, quand j'ai découvert ces fêtes-là, ça a été tellement stimulant. Et là, on peut comprendre ce que ça veut dire. Et on peut commencer à faire l'expérience de les mettre en pratique. Et plus on les met en pratique, plus Dieu nous donne de les comprendre. C'est de cette façon-là que Dieu fonctionne. Alors, on est tout proche, donc, du début du cycle annuel des sept fêtes décrétées par le Créateur de toutes choses. Et comme on voit dans la Bible, ces fêtes-là, on doit les célébrer à des jours précis qui sont déterminés clairement dans les Écritures. Elles n'ont jamais été abolies et elles seront encore observées après le retour du Christ dans le monde de demain. Pourquoi? Très simple. Parce que ces fêtes-là représentent les étapes que le plan de Dieu réalise, que Dieu réalise à travers son plan, chacune des étapes. Et c'est selon les Écritures. Ces fêtes-là, on le voit dans la Bible, elles ont été célébrées par le Christ lui-même. C'est pas surprenant, c'est lui qui les avait annoncées, qui les avait décrétées de la part de son Père aussi. Alors, elles ont été célébrées par le Christ. Elles ont été célébrées par ses apôtres aussi. Elles ont été célébrées par l'Église originale. Et elles ont été célébrées par l'Église de Dieu, la petite Église de Dieu, le petit troupeau, tout au long de l'histoire de l'humanité, jusqu'à aujourd'hui. Et l'Église de Dieu continue encore d'observer ces fêtes décrétées par Dieu à perpétuité. Perpétuité, ça dure toujours. Et on le voit dans la Bible, ce mot-là revient régulièrement. Et dans le monde à venir, toute l'humanité aura le plaisir, le bonheur de les découvrir et de commencer à les mettre en pratique, ce que l'ensemble de l'humanité ne fait pas pour l'instant. Le monde chrétien ne célèbre pas les fêtes qui sont marquées dans la Bible. Il ne célèbre pas ces fêtes-là. Il célèbre certaines autres fêtes qui, elles, ne sont absolument pas marquées dans la Bible. On ne les retrouve pas dans la Bible. Pourquoi? C'est simple et c'est biblique. Il y a une prophétie qui annonçait ça longtemps d'avance. C'est que les temps et les lois de Dieu allaient être changés au cours de l'histoire de l'humanité. Les temps établis par Dieu, ses fêtes, ses lois allaient être changées par les êtres humains au cours de l'histoire. Changées en particulier par une institution religieuse ou un gouvernement religieux, mais c'est une église. Église puissante qui a exercé son influence au cours de l'histoire. Daniel a vu l'influence de cette organisation religieuse. Dieu lui a révélé dans un songe, dans des visions qu'il a eues. Tournez avec moi à Daniel chapitre 7, s'il vous plaît. Daniel chapitre 7. On va voir cette prophétie-là qui explique que les choses ont été changées, de sorte que l'humanité a été tenue dans l'ignorance et qu'elle est encore dans son ensemble tenue dans l'ignorance. Daniel a vu une petite corne parmi les choses qu'il a vues dans les visions nocturnes que Dieu lui a donné d'avoir. Et ces visions nocturnes-là lui ont donné de voir l'histoire humaine, l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Et entre autres, il a vu ici, dans le contexte dont je vous parle, des animaux, quatre animaux, dont le quatrième représente l'Empire romain. Je n'entrerai pas dans les détails. On a des brochures et des articles qui expliquent ces choses-là en détail. Vous pourrez le vérifier vous-même. Le quatrième de ces grands animaux que Daniel a vu dans ses visions, ça devait être effrayant, a joué un rôle majeur pour changer justement les lois de Dieu et pour persécuter les vrais serviteurs de Dieu tout au long de l'histoire. Et il y aura, on sait, la Bible l'annonce, une dernière persécution sur les serviteurs de Dieu juste avant le retour de Christ. Et ce quatrième animal-là, l'Empire romain, il est dirigé par ce que la Bible appelle une grande prostituée, c'est-à-dire une femme, une religion, une grande religion qui est une fausse religion et qui va, tel qu'annoncé au temps de la fin, diriger l'Empire romain, qui va influencer l'Empire romain pour accomplir ce qu'elle veut accomplir, à l'encontre des voies de Dieu. Mais Daniel, dans ses visions, déjà a dit que cette petite corne, ce gouvernement ecclésiastique, allait changer les lois de Dieu et les temps. Daniel 7, commençons au verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le quatrième animal, l'Empire romain dont je vous parle, qui était différent de tous les autres, des trois grands empires qui ont eu lieu avant. Différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer et des ongles d'airain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait, et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie et devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints. Cette corne, cette église, a fait la guerre et va faire la guerre aux saints, c'est-à-dire à la petite église de Dieu. OK? Faire la guerre aux saints. Et l'emporter sur eux. Et on sait qu'à la toute fin, ceux qui seront restés derrière, ceux de Laodicée, seront vaincus, mourront sous les dictats de cette grande prostituée qui va opérer par son bras militaire, c'est-à-dire l'armée de l'Empire romain ressuscité. Alors déjà ici, il ouvre une petite fenêtre sur le temps de la fin. Jusqu'au moment où l'Ancien des jours, l'Éternel, vint donner droit au sein du Très-Haut. Et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Alors on voit que ça parle donc du temps de la fin, du retour de Christ, de ce qui va se passer juste avant et ce qui va se passer à ce moment-là. Il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes et qui dévorera toute la terre et la foulera et la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, les serviteurs de Dieu. Et il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi. Et c'est pour ça que nous avons dans nos sociétés chrétiennes toutes les fêtes que les gens célèbrent de bon cœur, sincèrement, en pensant que ces fêtes-là honorent Dieu, mais ce ne sont pas des fêtes de Dieu. Ce sont des fêtes païennes, d'origine païenne, qui ont été mélangées à un christianisme de contrefaçon qui semble bon, mais qui n'est pas le christianisme du Christ, parce que le Christ a donné ses fêtes à lui. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, les dernières 3 années et demie, la grande détresse, au cours de laquelle ceux qui ne seront pas amenés à un lieu de sécurité devront donner leur vie pour prouver à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. Alors que les autres qui auront fait avant l'essentiel pour marcher vers la perfection, malgré leur imperfection, mais qui travaillent à changer, seront amenés dans un lieu de sécurité, seront protégés et seront les réceptacles d'une dernière formation avant l'établissement du royaume. Alors, cette même puissance religieuse, cette petite corne que vous voyez ici, vous la voyez décrite dans Apocalypse 17. Vous pouvez lire tout le chapitre Apocalypse 17, je ne m'y reporterai pas, mais on parle de cette même petite corne, cette fois-là, en termes de la grande prostituée qui dirige la bête. Alors, cette puissance-là a changé les temps. Écoutez, c'est clair, prenons des exemples très simples. Le jour et la nuit. À quel moment Dieu a établi que les jours commençaient et que les jours finissaient? Au coucher du soleil. C'est pas illogique. C'est Dieu qui a fait les astres, la terre, le soleil, la lune, toute l'horlogerie céleste. Et c'est normal Et quand on le réalise, moi, ça m'a frappé quand j'ai découvert ça dans la Bible, que les jours commencent au coucher du soleil. Pour moi, c'était pas ça. Les jours commençaient à minuit. Mais pourquoi minuit? Pourquoi pas 1h15 du matin? Ou pourquoi pas 11h15? Ça a été établi par des hommes qui ont changé les temps et la loi. Comprenez-vous? Simplement ça, ça donne déjà un exemple au point de départ. Les mois. Dieu donne clairement dans la Bible que les mois commencent avec la nouvelle lune de chaque mois. Alors que dans les calendriers humains d'origine païenne, ça commence à des temps tout à fait différents qui n'ont rien à voir véritablement avec ça. Dans l'hémisphère nord, Dieu commence l'année tôt le printemps, quand les feuilles bourgeonnent, quand la verdure sort et tout ça, quand la vie commence. Hein? Alors, c'est logique, l'année commence au printemps, alors que sous l'influence justement de la petite corne de Rome antique, à ce moment-là, on a fait commencer l'année au début de l'hiver. Alors que tout est gelé dans l'hémisphère nord, que la vie ne reprend pas, elle est arrêtée. Voyez-vous que c'est contraire à la vision de Dieu, à comment Dieu a fait les choses et pourquoi il les a fait. Écoutez, Dieu a donné à ses enfants et à ses serviteurs, et il l'avait bien indiqué à sa nation choisie, à la nation d'Israël, aux 12 tribus israélites au début, il avait donné chaque semaine un jour en disant, voici quel est le jour du repos, pas celui de votre choix, le jour que moi j'établis. C'était le septième jour de la création où Dieu a créé le sabbat. À quel moment l'ensemble des chrétiens dans l'humanité célèbrent-ils le jour qu'ils pensent, eux, être le jour où on doit se reposer? C'est le dimanche, Sunday, le jour du soleil, le jour d'adoration du soleil. La loi et les temps ont été changés. Quand on regarde les choses de cette façon-là, c'est frappant de voir que l'humanité ne connaît pas le vrai Dieu, ne connaît pas ses fêtes, et c'est pas surprenant que l'humanité ne sache pas ce qui s'en vient. Et qu'elles ne connaissent pas non plus le plan de Dieu, ni le fait que le royaume de Dieu va être établi bientôt sur la terre. Les jours fériés païens ont été imposés par Rome. Ça, on peut le démontrer dans l'histoire. Que ce soit Noël, le Nouvel An, ou les Pâques, pas la Pâque, mais les Pâques, il y a une petite ressemblance dans le nom, là, mais ça n'a rien à voir. Et vous allez peut-être vous rappeler de ça, vous aussi, quand Dieu nous appelle, on découvre à ce moment-là ce que dit vraiment la Bible sur les fêtes de Dieu. Parce qu'on pensait le savoir. Moi, en tout cas, pour un, je pensais le savoir. Mais je ne le savais pas tant que je n'ai pas regardé moi-même dans la Bible pour voir ce qui était réellement écrit noir sur blanc. Et là, on est surpris de voir, par exemple, que les Pâques, Easter, en anglais, qui vient du nom d'Astarté, en tout cas, ça c'est une autre explication, mais que les Pâques n'apparaissent pas dans la Bible, P-A-Q-U-E-S, les Pâques, ça n'apparaît pas dans la Bible, que le jour de l'an, ça n'apparaît pas dans la Bible non plus, que la fête de Noël n'apparaît pas dans la Bible non plus, et que nulle part dans la Bible, Dieu nous dit de célébrer les anniversaires de naissance ou l'anniversaire de naissance du Christ. Au contraire, la Bible nous dit qu'il nous faut, chaque année, une fois par année, célébrer sa mort, non pas sa naissance. Ça, c'est clair. Ça, c'est la Pâque. C'est le début du plan de Dieu. Mais vous, tout ça se tient encore. Mais ça a été caché à l'ensemble de l'humanité. Mais on est surpris de découvrir ça. Et on est surpris, en même temps, quand Dieu nous appelle, puis qu'on ouvre la Bible, finalement, pour aller voir ce qu'elle dit vraiment, on est surpris par les fêtes qui sont là. D'abord, par le nom des fêtes aussi, parfois. Quand on arrive, par exemple, sur le nom de la fête des pains sans levain, c'est quoi les pains sans levain? C'est quoi une fête de pain? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, on apprend graduellement qu'est-ce que ça veut dire et on voit l'importance de cette fête-là. Mais on est surpris au point de départ. Et c'est vrai pour chacun de ceux qui sont appelés. À ce moment-là, il y a, pour ainsi dire, un combat dans nous autres. Parce qu'on arrive avec nos préjugés. C'est-à-dire que les choses se sont toujours faites de cette façon-là. Tout le monde observe Noël. Pourquoi je ne l'observerais pas? Tout le monde dit que c'est une fête de famille, joyeuse, c'est des bonnes raisons de le faire, même s'il y a beaucoup de choses assez négatives d'associer à ça, comme le fait de prendre un coup, de chicaner, d'exagérer sur la nourriture, de dépenser à la folie, de s'endetter pour le restant de l'année et tout ça. Mais c'est des belles fêtes. Les gens disent, bien, c'est des belles fêtes de famille. On prend ce prétexte-là pour dire qu'il faut célébrer Noël. Mais quand on voit que les fruits de ça ne sont pas les fruits que Dieu veut voir et que cette fête-là n'est pas décrétée dans la Bible, et que c'est le contraire, à ce moment-là, on a un choix à faire. Mais il y a un combat. Il y a un combat contre nos préjugés et il y a un combat aussi contre les traditions, parce que c'est fort, les traditions. Parce que là, les échanges de cadeaux et puis toutes ces choses-là qui se font à cette époque-là, quand vous commencez à ne plus donner de cadeaux et que vous demandez aux gens de ne plus vous en donner, je peux vous dire que vous êtes un peu différent des voisins. Vous êtes un peu différent de ceux de votre famille. On l'a vécu. On est content de le faire, mais au début, c'est difficile. Et ça demande du courage. Mais pour suivre Dieu, ça demande du courage aussi. Mais Dieu nous bénit en conséquence et nous donne la force pour le faire. Il faut se mettre avec lui, marcher avec lui, lui demander son aide. Mais il y a un combat. C'est la même chose en ce qui concerne le sabbat. Le sabbat, on a toujours pensé, moi pour un, puis c'est le cas de plusieurs ici que je connais, que le sabbat, c'était pour les Juifs. Parce qu'on voit des Juifs qui observent le sabbat. Alors, automatiquement, on fait une relation, on dit le sabbat, c'est pour les Juifs. Mais le sabbat n'est pas pour les Juifs. Il est fait pour l'homme. Le sabbat est fait pour l'homme, c'est marqué dans la Bible. Et quand Dieu a créé le sabbat, il n'y avait pas un Juif de présent. Quand Dieu a créé le sabbat la première fois, Dieu a créé le sabbat pour l'homme, il a donné ses fêtes pour l'ensemble de l'humanité. Le sabbat, c'est pas une fête des Juifs, c'est une fête de Dieu. D'ailleurs, quand vous regardez la liste des fêtes de Dieu, des sept fêtes de Dieu, il commence par donner le sabbat comme étant la première fête qu'on doit observer chaque semaine, chaque septième jour. C'est une fête qu'on doit célébrer en ne travaillant pas, en se reposant, en étudiant davantage la Bible, en écoutant de la belle musique, en allant marcher dans la nature, en venant à la sainte convocation, parce que ça fait partie du sabbat, ça fait partie du commandement, de nous présenter en assemblée pour être enseigné. Et ça fait partie exactement du commandement. Et là, après ça, c'est pas tout. Une fois qu'on a découvert que le sabbat, ce n'est pas pour les Juifs seulement, mais que c'est pour tous les êtres humains, que ça va être célébré dans le monde à venir, que pour plaire à Dieu, je dois maintenant, moi, ne pas travailler du coucher du soleil le vendredi soir, là où les jours commencent, au coucher du soleil le samedi soir, là où les jours finissent. Là, quand je mets ça en application, c'est formidable. Mais quand je continue à étudier la Bible, après que Dieu m'a appelé, je vois qu'il y a d'autres sabbats aussi. Pas seulement les sabbats hebdomadaire à chaque fin de semaine, à chaque septième jour, mais qu'il y a ce que la Bible appelle des jours saints ou des sabbats annuels. Même description que le sabbat, je ne dois pas travailler et je dois consacrer cette journée-là davantage à Dieu, à fraterniser avec mes frères et sœurs, à aller à la sainte convocation et tout ça, mais il y a des sabbats annuels, à date fixe, des jours saints. Jours saints, ça veut dire qu'ils ont été mis à part par Dieu. Quelque chose qui est saint, selon la Bible, c'est mis à part pour Dieu, pour un usage spécial. Les jours saints que Dieu a mis à part, il les a indiqués comme ayant un usage spécial à sa gloire et pour notre formation. Et en même temps, c'est là qu'on apprend les étapes du plan de Dieu. Ce qu'on ne connaissait pas avant. Avant de connaître les sept fêtes de Dieu, on ne connaissait pas le plan de Dieu réellement. Mais Dieu a donné ses jours saints, ses jours de fête, ses sabbats annuels. Il les a donnés très clairement pour ses enfants, pour qu'ils se souviennent de lui et qu'ils comprennent son grand plan. Et Dieu nous demande de les revivre chaque année. C'est pour ça que je vous ai parlé tantôt du cycle annuel des fêtes de Dieu. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de refaire l'exercice pour rester en contact avec Dieu, pour lui obéir, parce que c'est un commandement, et pour être fortifié de plus en plus d'une fois à l'autre. C'est pour ça que j'ai dit que même pour les anciens dans l'Église, même pour ceux qui sont là depuis 30 ans ou 40 ans, on doit les faire, on doit s'efforcer de les faire avec le même zèle, sinon plus, que dans nos débuts. Parce qu'on doit approfondir ces vérités d'une ampleur incroyable qu'on a le privilège et le bonheur de célébrer. Vous pourrez aller voir d'ailleurs, je ne m'y rendrai pas, c'est pas le propos de mon sermon, vous irez voir dans Lévitique 23. Lévitique chapitre 23, là Dieu décrit justement les sept fêtes dont je vous parle, en commençant par le sabbat. Et on les revit chaque année. Voyez-vous, on sait par l'histoire que les nations qui ont connu les fêtes de Dieu et qui les ont abandonnées, les nations qui ont connu le sabbat de Dieu, je parle des nations israélites ici, à qui Dieu s'était révélé au début, lorsqu'elles se sont éloignées de Dieu, qu'elles ont commencé à ne plus observer les fêtes, à ne plus observer le sabbat, qu'est-ce qui est arrivé? Elles ont perdu de vue le plan de Dieu. Elles ont cessé de comprendre ce que Dieu est en train d'accomplir. Elles ont perdu ça de vue. Elles ont perdu une notion. Ces nations-là, les nations israélites, on pourrait avoir d'autres messages là-dessus en détail, mais les nations israélites ont perdu même leur identité parce que c'était lié à qui elles étaient. « Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Voici quelles sont mes fêtes. » Tant que les nations israélites, les 12 fils d'Israël, ont observé ces fêtes-là, ils savaient qu'ils étaient des nations israélites, qu'ils marchaient avec Dieu, que Dieu était réel, que Dieu était intervenu pour leur père et qu'ils allaient intervenir pour eux. Mais quand ils ont cessé, ou diminué d'abord et ensuite cessé d'observer les fêtes et cessé d'observer le sabbat, qu'ils l'ont profané, ils ont perdu non seulement la notion du plan de Dieu, mais ils ont perdu leur identité. Tant et si bien que les nations israélites modernes ne savent plus quels sont les descendants de Jacob ou d'Israël ancien. Les nations de langue anglaise, la France, ces pays-là, la Belgique, et ainsi de suite. Ils ne savent plus, sauf ceux que Dieu appelle et à qui il se révèle et à qui il donne de comprendre l'histoire de l'humanité. Écoutez, je sais par expérience, ça fait plusieurs années que je suis dans le ministère, et les gens qui sont venus à l'Église, plusieurs sont repartis, et on a vu souvent que quand les gens ont commencé à diminuer d'observer les fêtes, ou ont commencé à diminuer d'observer le sabbat, ils ont commencé à se demander pourquoi ils avaient fait ça d'abord, et même arriver à croire que ça n'avait pas de sens, et à tout rejeter. Et ça arrive parfois, ça m'est arrivé dernièrement, de rencontrer quelqu'un de l'époque qui était à l'Église, et il n'y a plus absolument rien sur le tableau. Il n'y a plus aucune connaissance qu'il y avait auparavant. Aucun intérêt pour les choses de la Bible, aucune connaissance. Pourquoi? Ils ont tout perdu. Parce que Dieu donne son esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Alors, si on diminue de lui obéir, après avoir connu la vérité, on diminue de comprendre la Bible. On diminue de comprendre son plan. On perd notre identité en tant qu'enfant de Dieu, comme les nations israélites ont perdu leur identité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les églises du monde, ayant subi la transformation du temps et des lois, qu'ils se sont fait montrer des lois qui ne sont pas les lois de Dieu, même si parfois elles ressemblaient aux lois de Dieu, c'est toujours la contrefaçon de Satan, hein? Un peu de vérité, un peu de mensonge, ça ne doit jamais être ça, c'est juste la vérité ou ce n'est pas la vérité. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Alors, nos nations ont perdu notion des fêtes de Dieu, elles ont perdu notion aussi ce qu'elles savaient autrefois quand Dieu les a appelées, nos nations israélites, quelles étaient les lois de Dieu et tout ça. Aujourd'hui, on a de la difficulté à certains endroits de garder des écrits de la loi en public, aux États-Unis entre autres. La loi dans certaines régions ne permet même plus d'avoir les 10 commandements affichés dans les lieux publics, ce qui était le cas au point de départ. Tout ça se perd. Et les églises chrétiennes ne comprennent plus non plus ce qu'est le péché. Les églises chrétiennes ne comprennent plus. Ils se disent chrétiennes. Mais quelle église dit aux gens « changez » Arrêtez de transgresser les 10 commandements. Commencez à observer le sabbat. Cessez de mentir. Cessez de voler. Soyez honnête sur votre rapport d'impôt. Combien d'églises chrétiennes le font? Je pense pas, hein? Il n'y en a pas beaucoup. Les gens disent plutôt dans ces églises-là, « Venez comme vous êtes, Dieu vous aime. Donnez votre cœur au Jésus. » Et là, à Jésus, et là, c'est fait. C'est réglé. Vous êtes sauvés. On ne sait pas ce que c'est qu'être sauvé. On ne l'explique pas. Parce que pourquoi? On ne comprend pas ce que la Bible dit. On a perdu la connaissance des choses. Ces églises-là n'enseignent pas le péché et ne disent pas aux gens qu'ils doivent changer, qu'ils doivent sortir du péché. Ces églises-là n'enseignent pas non plus qu'est-ce que l'homme et qu'est-ce que le but de l'homme, quel but a été créé, ce que M. Armstrong a compris, qu'il nous a expliqué et que nous expliquons, que nous avons la responsabilité de faire connaître. Les églises chrétiennes du monde ne comprennent pas le but de la vie non plus. Beaucoup d'entre elles pensent que quand les gens meurent, ils vont soit en enfer tout de suite, ou au ciel tout de suite. Pour faire quoi, on ne sait pas. Et ils vont en enfer pour souffrir éternellement, comme si Dieu était un Dieu cruel qui aimait voir souffrir les gens éternellement, même ceux qui ne l'ont jamais connu. Est-ce que c'est ça la justice de Dieu? Absolument pas. Dieu est un Dieu juste, il va donner la chance à chacun. Mais ces églises-là n'enseignent pas ça. Et si vous leur posez des questions, ils ne le savent pas. Ou s'ils disent quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est en rapport avec ce que la Bible dit. Et au contraire, certaines de ces églises-là vont même dire qu'ils sont nés de nouveau, sans savoir ce que c'est que la nouvelle naissance. Qu'être né de nouveau, c'est naître totalement d'esprit, de devenir totalement un être spirituel, un fils et une fille de Dieu, de même nature que lui, de sorte qu'on peut voir, comme c'est écrit dans 1 Jean, que lorsque nous allons être changés en être spirituels, nous allons pouvoir voir le Christ parce que dans sa nature actuelle, dans son état actuel. Pourquoi? Parce que nous allons être devenus de même nature que lui. Là, on sera nés de nouveau, simplement. Mais les églises chrétiennes ne comprennent pas ça. Elles ne comprennent pas non plus que le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Plusieurs églises, comme l'Église catholique et les grandes églises protestantes, annoncent que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne d'une trinité. Absolument pas. Vous voyez par la Bible que c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu, par laquelle Dieu a créé l'univers entier, et par laquelle Dieu a engendré le Christ dans Marie. Si le Saint-Esprit était une troisième personne, il faudrait que le Christ appelle le Saint-Esprit son Père, et non pas le Père. Alors ça, on peut entrer dans plusieurs détails là-dessus, mais je vous donne simplement un exemple pour vous montrer que les églises du monde ont perdu complètement notion de la vérité. Elles ne savent pas non plus que le rôle d'Église, c'est simplement d'annoncer l'Évangile, d'annoncer le retour de Christ, d'annoncer qu'on doit changer, et qu'on doit annoncer ça comme un témoignage, qu'on n'a pas à essayer de convertir personne. Notre rôle, c'est pas de convertir personne. Cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée au monde entier, Matthieu 24, pour servir de témoignage. Ça ne dit pas pour convertir personne. Parce que c'est Dieu qui appelle, c'est pas moi qui appelle, ni l'Église. Mais on rend le témoignage disponible. Alors, voyez-vous, les églises du monde, malheureusement, ne le comprennent pas. Pas parce qu'elles sont mauvaises en soi, mais elles ne le savent pas parce qu'elles sont coupées de Dieu. Elles ne savent pas non plus que ceux qui maintenant mettent en pratique les lois de Dieu, célèbrent ses fêtes, seront membres de l'équipe du Christ pour enseigner les nations dans le monde à venir, qu'ils seront des sacrificateurs, des rois, des souverains sous le Christ pour diriger les nations. Certaines églises ne croient même pas, et elles se disent chrétiennes, que le Christ va revenir. Alors que le Christ a annoncé à plusieurs occasions, de façon très claire, qu'il va revenir sur cette terre. Ou celles qui parlent du retour de Christ se demandent qu'est-ce qui va arriver après, ne comprennent pas la suite des choses. Il faut être proche de Dieu, il faut être en train de faire sa volonté pour que Dieu nous révèle ces choses-là qui sont claires, qui sont bibliques, qu'on peut prouver par les textes. Et parce que c'est comme ça, ces églises-là ne comprennent pas les phases du plan de Dieu. Et c'est pourquoi elles enseignent souvent que la loi a été abolie. Que la loi a été abolie. Que les commandements de Dieu, ça concernait seulement l'Ancien Testament, les vieilles choses de l'Ancien Testament. Alors que le Christ a dit clairement, je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu pour la magnifier. Et là, il explique qu'est-ce que c'est la loi dans sa dimension spirituelle et pas seulement dans sa dimension selon la lettre. Formidable. Alors, Dieu a ordonné que ses fêtes, ses jours saints, les sabbats, soient observés d'année en année, à perpétuité. Et elles le seront dans le monde à venir. Elles le seront dans le monde à venir. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde simplement rapidement, jeter un coup d'œil sur les deux premières fêtes des sept fêtes de Dieu. Ces fêtes-là qui approchent maintenant d'ici très peu de temps. D'abord, la Pâque. La Pâque, c'est le point de départ du plan de Dieu. Et c'est fascinant. Je dis plan de Dieu, puis je choisis mon mot, parce que Dieu a établi son plan avant de commencer la création de quoi que ce soit, alors qu'il était seul, lui et le Christ, deux seuls êtres spirituels ayant existé de toute éternité. Ils ont tous les deux décidé d'établir un plan pour amener à l'existence l'univers que nous connaissons, amener à l'existence les anges, qui ont d'abord été créés avant l'univers physique, les anges, et ensuite les êtres humains, selon les étapes de la création. Mais tout ça a été planifié. Ça a été planifié avec tellement de précision qu'on peut aller voir, aller dans Apocalypse 13. Je vais vous montrer ça, Apocalypse 13. Le grand plan de Dieu, ses fêtes montrent son plan. Apocalypse chapitre 13. Ici, ça décrit l'Empire romain, ce chapitre-là. Et si on arrive au verset 8, et ça dit que tous les habitants de la terre vont admirer ce système-là, en plus d'admirer aussi le faux prophète qui va être en arrière-scène, ou même en avant-scène à ce moment-là. Et regardez le verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Qui est l'agneau? Le Christ, l'agneau de Dieu. Jean l'a exprimé clairement, il dit « Voici le Christ, l'agneau de Dieu. » Le Christ était venu en tant qu'agneau pour être immolé, pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos péchés. Mais c'est fascinant de regarder ce petit verset-là ici, parce que ça nous montre qu'avant l'existence de quoi que ce soit dans l'univers, il avait été indiqué dans le plan de Dieu que l'agneau devait être immolé plus tard. L'agneau n'a pas été immolé à ce moment-là. Il n'a pas été littéralement immolé au moment où le plan a été fait. Mais ça veut dire que le fait que l'agneau devait plus tard venir et être immolé a été inscrit dans le plan. C'est pour ça qu'on dit qu'il a été immolé depuis la fondation du monde, depuis avant la fondation du monde. C'est qu'il a été, il a été décidé qu'il devait, par après, donner sa vie en tant qu'agneau du monde. Alors, dans la planification, c'était écrit, autrement dit, que l'agneau de Dieu, son fils, allait venir donner sa vie. Il a été immolé avant la fondation du monde, quand les plans ont été faits. Voyez-vous? C'est ça que ça veut dire. C'est fascinant quand on saisit la vérité de ce petit bout de verset-là. On voit que la Pâque, parce que quand l'agneau a été immolé, ça a été la Pâque. Et c'est pour ça qu'on appelle dans la Bible l'agneau la Pâque aussi. Notre Pâque, Christ, notre Pâque a été immolé. Hein? Paul en parle de cette façon-là. Alors, la Pâque a été prévue, donc, dans le plan de Dieu avant la création du monde. Et elle a été symboliquement illustrée au Jardin d'Éden, après la création d'Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu, symboliquement, les a revêtus. Il a, autrement dit, caché leur faute. Mais c'était un symbole de ce qui allait venir. Et pour cacher leur faute, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris des feuilles d'arbre, comme les premiers parents ont essayé de faire. Il a pris des peaux d'animaux. OK? Pour qu'ils prennent des peaux d'animaux pour couvrir Adam et Ève, il a fallu qu'ils sacrifient des animaux. Sans doute un chevreau ou un agneau, qui préfigurait que son fils, l'agneau de Dieu, allait plus tard venir et donner sa vie pour payer l'amende de nos péchés. Alors voyez-vous, la Pâque a été prévue avant la fondation du monde, dans les plans originaux. La Pâque, le fait que l'agneau de Dieu devait venir et donner sa vie, a été illustré quand Dieu a immolé un agneau ou un chevreau pour couvrir nos premiers parents. C'est marqué dans Genèse 3, verset 21. Vous pourrez le lire. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'était symbolique du fait que le Christ allait venir donner sa vie pour couvrir nos fautes à nous. Allez dans Exode chapitre 12, s'il vous plaît. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Exode chapitre 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Alors voyez-vous, c'est Dieu qui fixe le début de l'année. Et là, on arrive au début de l'année sacrée. « Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. » Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut. Ça devait représenter le Christ, un agneau sans défaut. Âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Un moment très précis. Et c'est pour ça que le Christ, lorsqu'il a pris la Pâque, en particulier, on le voit dans sa dernière Pâque, c'est écrit « Le soir étant venu ». Parce qu'il faut respecter, lorsqu'on prend la Pâque, le temps exact qui est fixé par Dieu. Alors, on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain. Mais vous, il y a déjà l'introduction de pains sans levain ici. Et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Et pour ça, c'est parce qu'eux devaient fuir pas longtemps après. Alors, il devait être prêt. Mais pour nous, ça doit indiquer aussi qu'en prenant la part, qu'on doit avoir aussi un sentiment d'urgence, que les choses avancent et que nous devons être prêts. Verset 12. « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » En anglais, on appelle la Pâque « Passover », passer par-dessus. Donc, ne pas détruire ceux qui sont là, les protéger. « Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Loi perpétuelle. Et elle sera continuée dans le monde à venir aussi. Parce que le sacrifice de Christ n'aura pas moins d'importance dans le monde à venir parce qu'il y est passé. Comme il n'a pas moins d'importance pour nous parce que le sacrifice est passé. C'est à cause de ce sacrifice-là que nous pouvons être pardonnés de nos fautes, lavés par son sang, voyez-vous? Alors, c'est pour ça que dans le monde à venir, ces fêtes-là vont servir de mémorial extraordinaire, parce qu'ils vont être au cœur de ce monde à venir changé, transformé, qui aura été rendu possible par la réalisation du plan de Dieu, dont la première étape est justement la mort de l'agneau de Dieu. Une fête annuelle, prophétisée, annonçant la venue de l'agneau pour donner sa vie. Maintenant, allez dans 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens, chapitre 11. Donc, on a vu que la Pâque avait été prévue avant la fondation du monde, qu'elle a été illustrée symboliquement par Dieu qui a revêtu Adam et Ève de peau, donc ayant dû mettre à mort un agneau ou un chevreau pour ça. Elle a été commandée, comme on vient de voir, par Dieu comme une fête perpétuelle, pour eux dans le temps, mais pour nous aujourd'hui aussi. Et ici, on voit qu'elle a été modifiée. La Pâque a été modifiée. Un seul personnage avait l'autorité de modifier la Pâque, celui qui l'avait donnée, le Christ. Il a changé les symboles de la Pâque. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 25. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. » Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Alors, voyez-vous, ici, il a remplacé le fait qu'on doive utiliser un petit agneau en disant, « Voici maintenant le morceau de pain sans levain qui représente mon corps que j'ai donné en tant qu'agneau de Dieu pour la rémission de vos péchés. » Il avait l'autorité de changer les symboles et il l'a fait à ce moment-là. Et c'est pour ça que nous, en célébrant la Pâque, nous faisons la même chose exactement avec le pain sans levain. « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et nous le faisons. Nous avons le bonheur et la joie de le faire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Alors, voyez-vous, ce n'est plus maintenant le sang du petit agneau qu'on mettait sur la porte comme un symbole pour représenter le sang de l'agneau qui allait venir. Mais il dit, « Voici maintenant, vous allez prendre du vin rouge qui représente mon sang, du vin, comme on voit dans les textes. » C'est le mot grec, c'est « oinos ». Il y a juste un mot qui désigne vin, un liquide de raisin fermenté. Il n'y a pas d'erreur possible de ce côté-là. Encore là, il y a des connaissances qui se sont perdues à ce sujet-là. « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Formidable! Et il nous est commandé, donc, on le voit dans le même contexte, de le faire. Il dit, toutes les fois que vous en boirez, faites ceci en mémoire de moi, avec le pain sans levain et avec la petite coupe de vin rouge, une fois par année. Une fois par année. Et non pas toutes les semaines ou à tous les dimanches ou à deux fois par semaine ou trois fois par semaine. Encore là, c'est contraire au commandement de Dieu. C'est aussi simple que ça. Et pour ajouter, c'est que le Christ va célébrer de nouveau la Pâque lorsqu'il sera revenu lui-même. Vous pourrez aller voir dans Matthieu 26, verset 29, le Christ dit à ce moment-là, « Je ne boirai plus désormais. » Là, il était au moment de sa dernière Pâque, quand il a fait ce que je viens de vous décrire ici, quand il a changé les symboles du petit agneau pour le pain sans levain et du sang de l'agneau pour le vin rouge. Il a dit, « Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Voyez-vous, le Christ va reprendre la Pâque avec nous, avec ses disciples originaux, lorsqu'il sera revenu sur la terre. Qu'est-ce qui arrive quand on se fait baptiser? Dieu nous appelle, puis à un moment donné, il nous montre ses lois. On réalise qu'on a transgressé ses lois, qu'on n'a pas observé ses fêtes. On veut changer. On travaille à changer avec son aide, et il nous aide. On lui demande, il nous répond. Et là, on va vers le baptême, quand on connaît les conditions de l'engagement, parce que le baptême est un engagement. Et lorsqu'on est plongé totalement dans les eaux du baptême, après s'être vraiment repenti des choses qu'on avait à changer, là, on est lavé complètement de notre vie passée. Par quoi? Par la seule chose qui peut nous laver, le sang du Créateur de tous les êtres humains. On accepte son sang personnellement à ce moment-là et on est lavé de toute notre vie passée. Et ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que dans le fond, on signe un contrat avec Dieu, qu'on s'engage à vivre selon ses lois pour toujours. Il n'y a pas de retour. Si j'abandonne, je perds tout. Je perds ma chance d'être dans le royaume aussi parce que j'ai signé l'Alliance sainte en connaissance de cause. Et c'est pour ça qu'on ne baptise pas les gens dans l'Église à l'urgence. Il faut qu'ils connaissent vraiment les conditions. Il faut qu'ils connaissent vraiment, il faut que ce soit vraiment repenti. Il faut qu'ils aient le temps de le faire. C'est normal. Moi, je n'ai pas été baptisé en arrivant à l'Église. Ça a pris un certain temps avant que je comprenne comme il faut, que je commence à changer. Et quand ça a été le temps, le ministre m'a répondu que oui. Et là, j'ai été baptisé. Le temps était venu. Mais c'est un contrat. C'est une alliance qu'on signe dans le sang du Christ. On prend l'engagement de vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu et de continuer à nous purifier, à changer. Et c'est pour ça que quand vient le temps chaque année de prendre la Pâque qui nous est commandée, c'est qu'à ce moment-là, on doit être baptisé pour prendre la Pâque. Seuls ceux qui sont baptisés peuvent prendre la Pâque. Les autres se préparent éventuellement pour le faire dans les années subséquentes. Mais seuls ceux qui sont baptisés, c'est-à-dire ceux qui ont signé le contrat, l'alliance, peuvent prendre la Pâque. Parce que la Pâque, c'est le renouvellement de l'engagement à suivre Christ, à marcher dans ses voies. On renouvelle notre engagement à marcher dans les voies de Dieu. Encore là, il y a certaines églises qui observent la Pâque, ou une forme de Pâque, on va dire, mais qui n'observent pas la fête des pains sans levain, et qui n'observent pas les autres fêtes. Mais est-ce que c'est l'Église de Dieu? Ça ne peut pas être l'Église de Dieu. Parce que l'Église de Dieu doit observer les sept fêtes de Dieu. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Vous savez, et encore plus loin que ça, la majorité des églises chrétiennes enseignent que Jésus, et ça va peut-être vous rappeler des choses à certains d'entre vous, certaines églises enseignent que Jésus a achevé sur la croix le plan de rédemption. Il a achevé sur la croix le plan de rédemption. Complètement faux. C'est le début du plan de rédemption. Il fallait que ça commence par l'agneau qui est immolé. Et après, il y a d'autres étapes qui viennent. Vous allez découvrir au cours de l'année que je vais pouvoir vous enseigner, vous allez voir dans notre littérature. C'est pas exact. Ce n'est que le commencement, c'est la première étape, la Pâque. Le début du plan divin, ce qui avait été planifié avant la création du monde. Là. C'est le début de la création spirituelle de Dieu. Parce que lorsqu'on est lavé de nos fautes, après qu'on est lavé de nos fautes, dans un vrai baptême, après s'être vraiment repenti, un ministre de Dieu nous impose les mains, comme la Bible le dit, et là on reçoit le Saint-Esprit. On est engendré à ce moment-là. On n'est pas né de nouveau, mais on est engendré dans le sein de l'Église par l'Esprit de Dieu. C'est le début de la vraie démarche spirituelle vers le royaume, jusqu'au jour où on deviendra totalement esprit, après avoir reçu un peu du Saint-Esprit au moment du baptême. Alors, on voit que la Pâque est simplement le commencement du plan de Dieu. C'est pour ça que le Christ dit, « Je suis l'alpha et l'oméga. » C'est la première lettre de l'alphabet grec et la dernière lettre. « Je suis le début des choses et la fin de toutes choses. » Et c'est en lui seulement qu'on peut y arriver. C'est lui qui donne la foi, d'ailleurs, et qui l'amène à la perfection, comme on voit dans les Écritures. Tout est basé sur lui. C'est pour ça que la Pâque, là, c'est le pivot de toutes les fêtes de Dieu. Le Christ est le point central. Et c'est pour ça que lorsqu'on est baptisé, après nous être repentis, après avoir vu les lois de Dieu, lui demander pardon à Dieu de ces transgressions-là, lui demander de nous laver entièrement, à ce moment-là, on ne peut pas arrêter là. On a quelque chose à faire. Ça ne se termine pas là, c'est le commencement. C'est le commencement pour nous aussi. Ça ne s'arrête pas au baptême, ça ne s'arrête pas au moment où Dieu nous pardonne tout ce qu'on a fait de mal dans le passé, où on ne peut pas arrêter là absolument. Il faut qu'il y ait la fête des pains sans levain. Et là, j'arrive à ce thème-là. Parce que la fête des pains sans levain, là, c'est notre rôle à nous, ce qu'on a à faire maintenant. Maintenant que je sais quelles sont les lois de Dieu, maintenant que j'ai été pardonné de toutes les transgressions que j'ai faites dans le passé, maintenant, je dois m'appliquer, moi, à éliminer le mal de ma vie à mesure que je vais m'en aller dans les années vers le royaume. Notre engagement, c'est de changer. C'est le contrat que j'ai signé. De continuer de me purifier, de rejeter graduellement le mal avec l'aide de Dieu, le péché, les transgressions. Et c'est justement symbolisé, ça, par le levain. C'est pour ça que j'arrive à la fête des pains sans levain. Pourquoi Dieu a établi cette fête-là? Le levain, vous le voyez dans la Bible, représente le péché, les transgressions de la loi de Dieu. C'est pour ça qu'on célèbre la fête des pains sans levain après la Pâque, parce qu'il nous faut apprendre à vivre sans le péché, en l'éliminant de nos vies. Voyez-vous? C'est fantastique. Il y a un sens à toute chose que Dieu fait. Et une fois qu'on comprend ces choses-là, c'est tellement encourageant. Alors, le péché est symbolisé par le levain. Allez dans Exode 12. Exode 12, s'il vous plaît. Exode 12, on a vu les versets 1 à 14 tantôt, où il leur a été commandé de prendre un petit agneau et de faire ce qu'ils avaient à faire. Et ça, c'était la Pâque de l'Éternel qui a été décrétée comme une loi perpétuelle. On peut relire le verset 14. « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Alors, il vient de parler de la Pâque ici. Et c'est ce que nous faisons chaque année, ceux d'entre nous qui sont baptisés, la Pâque. Mais regardez ce qui vient après. Dieu enchaîne tout de suite avec la question du levain que je vous parle. Pendant 7 jours, donc les 7 jours suivants, vous mangerez des pains sans levain. Et c'est pour ça que chaque jour, on mange un peu de pain qui n'a pas de levain dedans, parce que ça représente la pureté vers laquelle on tend, qu'on essaie d'établir dans notre vie. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Et c'est pour ça qu'avant qu'arrive la Pâque et les pains sans levain, on fait le ménage dans nos maisons. Et là, on enlève tous les produits levés, les gâteaux, les tartes, toutes ces choses-là, les biscuits soda, ces choses-là. On s'organise de planifier des mangers avant pour qu'il n'en reste plus. S'il en reste, bien, il faut s'en défaire. Et il faut enlever la levure, les agents qui font lever également, pour qu'il ne reste plus rien de ça dans nos maisons au moment de la fête des pains sans levain. Alors, il dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, et on ne doit pas manger de pain levé. Alors, ceux qui aiment beaucoup les rôtis le matin, donc, ce sera une fête sans rôti, peut-être manger autre chose, mais non, c'est terminé. Alors, du premier jour au 7e jour, celui qui ne fait pas ça sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, un grand sabbat. Et là, on se réunit, comme on va faire ici, pour célébrer le premier jour des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. Il y a un sabbat annuel avant, un sabbat annuel après. On ne fera aucun travail ces jours-là. Pourquoi? Parce que c'est des sabbats. Même si c'est des sabbats plus spéciaux. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Les jours de fête, on peut cuisiner ces jours-là pour préparer la nourriture. Alors que les autres jours de sabbat réguliers, les sabbats hebdomadaires, on ne fait pas de grandes tâches de cuisine. C'est pas le temps de commencer à préparer un rôti de bœuf ou une sauce à spaghetti ou des choses du genre. On peut faire réchauffer des choses ou manger des choses qui sont froides ou des choses comme ça, mais c'est jour de repos. Alors, et mon épouse apprécie beaucoup d'ailleurs, parce que ça fait moins de cuisine à faire. Mais lorsque c'est des jours de fête, on peut cuisiner. Parce que souvent aussi, on est à l'extérieur. Et à ce moment-là, c'était la même chose. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. Encore une loi perpétuelle. Pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'Assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Et c'est logique que la personne qui dit vouloir obéir à Dieu et qui ne le fait pas, elle n'est pas là en réalité. Il faut qu'elle ait le temps de comprendre, il faut qu'elle ait le temps de commencer à mettre en pratique, ça c'est normal, mais la personne qui refuse de le faire, automatiquement va perdre compréhension de ce qu'elle a pu avoir jusque-là. Ça va dans le même sens. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Alors, voyez-vous, on sort avant cette période-là, avant la Pâque et les pains sans levain, on sort tous les produits levés, on les termine, ou on sort ce qui reste. On sort aussi tous les agents de levure. On enlève tout produit levé de nos maisons pendant la fête des pains sans levain. Le pain, les gâteaux, les biscuits, les tartes. Et comme je mentionnais, on peut planifier un peu d'avance de les consommer pour ne pas les perdre. Et on enlève de nos maisons la levure, la poudre à pâte, les autres agents qui font lever, le soda à pâte, qu'on appelle aussi bicarbonate de soude. Alors ça, il faut sortir ça de nos maisons. Et vous savez une chose? Dieu est sage. C'est un bon papa. Et il sait qu'on est des êtres humains physiques. Et on a besoin de faire certains exercices pour nous aider à réfléchir à ce que ça représente. Et c'est pour ça qu'on fait l'exercice physique de sortir le levain. Moi, je sais que quand je nettoie mon bureau, quand je nettoie mes poches d'habits, mon bureau dans mon bureau de travail et tout ça, ça me fait penser à mes fautes spirituelles. Et parfois, il y a des graines de pain qui sont difficiles à rejoindre, comme il y a des péchés qui sont difficiles à atteindre puis à éliminer. Il y a même parfois des choses qui restent là qu'on ne s'est pas rendu compte physiquement. Et tout à coup, durant la fête des pains sans levain, on s'est rendu compte qu'on a oublié telle chose qui a du levain dedans. Bon, on peut à ce moment-là simplement l'enlever, mais ça nous enseigne des leçons. C'est que spirituellement aussi, il y a des choses que Dieu nous montre en cours de route qu'on n'a pas encore changé, qu'on devra changer. Dieu ne nous décourage pas, il ne nous montre pas tout d'un coup ce qu'on a changé. Et ça fait partie de l'exercice. Et faisant cet exercice-là, de sortir le levain et les produits levés et les agents de levain, ça nous montre qu'on doit faire la même chose sur le plan spirituel. Alors, ça nous aide. C'est un aide, dans le fond, que Dieu nous donne. Ça nous montre qu'il nous faut nous débarrasser du péché, c'est-à-dire des transgressions de la loi de Dieu, de toutes les lois de Dieu, et qu'on doit changer. Vous savez, quand on est baptisé, on demande pardon à Dieu pour toutes les fautes qu'on a commises dans notre vie passée. Qu'on s'en rappelle ou non, Dieu les efface toutes. Et il dit dans sa Bible, « Je mets vos fautes aussi loin que l'Est est éloigné de l'Ouest. » Et pour lui, il ne s'en souvient plus. Et c'est un jour nouveau qui commence pour nous au moment du vrai baptême qu'on vit après s'être vraiment repenti. Mais vous savez, après avoir demandé pardon, on a réalisé aussi que pour être lavé de nos fautes, ça a pris le sang de celui qui nous a donné la vie, le sang de notre Créateur. Alors, on ne peut pas demander pardon au baptême, faire l'alliance de la Pâque, et la renouveler ensuite chaque année, tout en continuant à pécher. On peut pas. C'est contraire. Ça n'a pas de sens. En continuant à pratiquer ce qui a causé la mort du Christ pour nos péchés. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait et qu'on est capable de ne plus jamais pécher. Ça, c'est autre chose. Mais je dois être en train de l'éliminer, le mal de ma vie, avec l'aide de Dieu, le supplier. Puis d'une année à l'autre, il doit y avoir des améliorations. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on change tout d'un coup. Mais il veut qu'on soit en train de le faire, ne pas se décourager, demander son aide. Et il dit, je vous abandonnerai jamais, je vous délaisserai jamais. Comprenez-vous pourquoi on a besoin de célébrer la fête des pains sans levain? Ça a tellement de signification sur le plan spirituel. Et pour Dieu, c'est important. Parce qu'il voit si on prend à cœur le fait de vouloir changer. Et pour lui, ça, c'est majeur. Garder uniquement la Pâque pour négliger d'observer le jour des pains sans levain, ça revient à dire qu'on accepte le sang du Christ, mais qu'on continue à vivre dans nos péchés, puis à causer la mort du Christ. Si je le mets dans d'autres termes comme ça. Autrement dit, le fait d'être pardonné de nos péchés, ça ne nous donne pas la licence pour continuer à pécher. C'est qu'à ce moment-là, je dis à Dieu, je vais faire tout mon possible, aide-moi. Puis là, je vais changer ça, je vais travailler là-dessus. Je vais m'éloigner de certaines choses pour ne pas retomber, et ainsi de suite. Je mets en place les choses qu'il faut dans ma vie pour être capable de changer. Et si vous remarquez, la fête des pains sans levain, elle est pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Le chiffre 7 a une signification importante pour Dieu. C'est complet, c'est total. Parce qu'on s'en va, oubliez pas, vers la perfection. Elle ne sera pas atteinte tant que le Christ ne sera pas revenu et que lui ne nous aura pas rendu parfaits, si on est en train de continuer à se perfectionner. OK? Mais on s'en va vers là. Et la fête des pains sans levain, 7 jours, c'est complet. Ça représente quelque chose de total. Et ça indique qu'il nous faut totalement éliminer le péché de nos vies en travaillant là-dessus régulièrement avec l'aide de Dieu, parce que seul, c'est impossible. Seul, c'est impossible avec l'aide de Dieu. Mais il faut être sincère, il faut être honnête, il faut reconnaître nos fautes. Et demander à Dieu qu'il nous aide à les voir même. Il y a certaines fautes que Dieu m'a montrées que je ne voyais pas avant. Dieu a été bon, il ne me les a pas tout montrés d'un coup, mais il m'en montre encore et je dois travailler sur ces fautes-là pour les éliminer. Allez, en terminant, si vous voulez, à 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. C'est un bon résumé ici, par Paul, des deux premières fêtes divines et du lien direct qu'elles ont une avec l'autre, la Pâque et la fête des pains sans levain. 1 Corinthiens 5, on va lire le verset 6 à 8. « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la Pâque? » C'est pour ça que Dieu nous montre d'enlever tout le levain de nos maisons. Parce qu'il dit, si vous en gardez spirituellement du levain dans votre vie, ça fait lever toute la Pâque. C'est la Pâque, c'est votre être au complet qui est affecté. Alors, il faut travailler à l'éliminer avec mon aide. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain. » La fête était encore observée par les apôtres à ce moment-là. L'apôtre Paul l'explique clairement et on le voit dans d'autres endroits aussi. « Faites disparaître le vieux levain. Éliminez le levain physique de vos maisons, les produits levés, mais éliminez le levain spirituel. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, que vous soyez un être nouveau, que vous marchiez vraiment en nouveauté de vie. Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » Pourquoi Paul disait aux membres de l'Église à Corinthe à ce moment-là qu'ils étaient sans levain? Parce qu'ils avaient été pardonnés. Et regardez après, « Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. » Donc, une fois que vous êtes passé par les eaux du baptême, Christ, notre Pâque qui a été immolé, a payé l'amende de nos fautes. Et ces fautes-là, quand on a demandé pardon et qu'on a passé par les eaux du baptême, ces fautes-là ont été totalement enlevées. Parce que notre Pâque, le Christ, a été immolé. Alors, regardez ce que Paul dit. « Célébrons donc la fête. » Quelle fête? La fête des pains sans levain qui vient après la Pâque, après que le Christ a été immolé. « Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. » Le mal est représenté par le levain. « Mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. » Et c'est ça qu'on s'efforce, avec l'aide de Dieu, de développer dans nos vies, de vivre comme des pains sans levain, les pains de la pureté et de la vérité. On n'y arrive pas tout d'un coup, mais il faut se mettre en marche. Et Dieu nous encourage quand on le fait. D'ailleurs, dans le cadre de la dernière Pâque que le Christ a pris avec ses disciples, au cours de cette dernière Pâque-là, il a lavé les pieds de ses disciples, vous vous rappelez? Et il a fait une déclaration à ce moment-là, qui s'applique bien sûr au fait qu'on doit être le serviteur des autres. Il a donné cet exemple-là pour nous montrer qu'on doit être le serviteur de tous les autres êtres humains. Mais il a fait une déclaration qui s'applique, non seulement à la Pâque, non seulement au lavement des pieds qu'on doit pratiquer, mais qui s'applique aussi au pain sans levain qu'on doit manger durant la fête et au fait qu'on ne doit pas avoir de levain dans nos maisons, ni de produits qui font lever, mais qu'on doit s'efforcer spirituellement sur l'autre niveau à vivre sans levain. Il dit ceci, si vous savez ces choses, c'est intéressant, le Christ dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Et c'est vrai. Quand on a découvert la beauté du plan de Dieu, ce qui nous attend, la vérité de Dieu qui est solidement ancrée dans sa parole, on découvre ça avec émotion, avec admiration, avec appréciation pour Dieu. Il dit, si vous savez ces choses, je vous les montre, je vous les révèle dans ma parole. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Là est toute la différence. Pourvu que vous les pratiquiez. Ça, c'est notre part du contrat. Mais avec son aide, bien sûr. Alors, voyez-vous, c'est une immense bénédiction que de découvrir les fêtes de Dieu et de pouvoir les célébrer, de pouvoir les mettre en pratique. La loi et les temps ont été changés. J'en ai parlé au début. Mais bientôt, au retour du Christ, tout va redevenir comme ça doit être. Comme c'est marqué dans Actes 3, versets 19 à 21, ce sera alors le temps du rétablissement de toutes choses.